Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Gabriel Lepoussé. Gabriel est neuroscientifique, spécialiste des perceptions sensorielles dans le cerveau, donc ça veut dire de ce qui se passe dans votre cerveau quand vous dégustez du vin, quand vous mangez quelque chose. C'était vraiment une discussion de malade, je vais pas vous embêter beaucoup avec cette intro, juste partagez cet épisode autour de vous s'il vous plaît, parce que vraiment c'est un épisode de fou furieux, on apprend plein de choses, c'est trop intéressant et surtout c'est une parole qui est très différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans ce podcast et dans le vin de manière générale. Donc prenez 5 minutes pour partager cet épisode autour de vous, envoyez-le à des potes, publiez-le sur Insta, n'oubliez pas de me taguer, partagez-le sur LinkedIn aussi, let's go, je vous souhaite le meilleur, bonne dégustation, bonne écoute, à bientôt, salut. Et c'est tout bon, bonjour Gabriel.
Bonjour Antoine.
Merci beaucoup de venir à ma rencontre, merci. Alors j'en profite déjà en introduction du podcast pour remercier Via Aero qui nous accueille aujourd'hui. Vous avez les beaux sacs qui sont derrière, si vous écoutez le podcast, allez sur leur site et allez voir. C'est grâce à eux qu'on enregistre ici, dans un bel endroit, donc merci beaucoup pour ça. Gabriel, merci d'être présent avec moi, merci de prendre ce temps aujourd'hui. On s'est croisé il n'y a pas très longtemps à Wine Paris et je t'ai dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on arrive à se voir, et ensuite je t'ai tout de suite envoyé un email et t'as gentiment accepté de venir. Alors j'ai peur de dire des bêtises sur ta carrière, sur ce que tu fais. T'es neuroscientifique, spécialisé dans la perception neurosensorielle dans le cerveau, on va dire, perception des arômes en particulier dans le cerveau. T'as écrit pas mal là-dessus, t'as fait beaucoup de recherches. Donc tu vas nous expliquer tout ça, mais je te laisse te présenter.
Très bien, donc je m'appelle Gabriel Lepoussé, je travaille à Je travaille à l'Institut Pasteur à Paris, qui est un centre de recherche biomédicale. Moi, je travaille dans une équipe qui s'appelle Perception et Mémoire au sein du département de neurosciences. Et donc, mon travail quotidien, mon travail principal, c'est d'étudier le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement en particulier de nos sens, comment on perçoit l'information du monde extérieur, comment on l'encode, comment ça devient une mémoire, où se trouve la mémoire dans notre cerveau, comment on génère une émotion et comment aussi après on prend une décision et qu'on lance une action. Tout ça pour comprendre vraiment la mécanique du cerveau et comprendre un des organes qu'on comprend le moins de notre corps encore. Et derrière ces connaissances fondamentales, il y a bien sûr plusieurs points de sortie. Une des premières points de sortie qui sont le sujet de notre travail au laboratoire, c'est quand le cerveau dysfonctionne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a des dysfonctionnements sensoriels, mais aussi dans le cerveau du point de vue de l'interprétation des stimuli? J'entends par là que nous, on travaille beaucoup avec des médecins psychiatres, justement, qui vont essayer de nous poser des questions, essayer de nous challenger pour qu'on puisse mieux percevoir les mécanismes du dysfonctionnement du cerveau, en particulier sur les troubles des émotions, troubles de l'humeur, dépression, troubles bipolaires, stress post-traumatique, des troubles qui vont affecter pas l'encodage sensoriel, mais plutôt, tu vois, comment tu interprètes un signal. Pourquoi du jour au lendemain, un signal qui était plaisant devient neutre, voire déplaisant pour toi? Et ça, ça nous aide aussi dans notre questionnement de comment fonctionne le cerveau. Donc ça, c'est tout un travail fondamental pour essayer de découvrir des nouvelles choses dans le cerveau qui, comme tu peux le comprendre, nourrissent à la fois la santé, mais qu'on plaint aussi de sorties du point de vue sociétal, du point de vue sciences de l'éducation, du point de vue de comment on utilise notre cerveau. Et parmi les gens qu'on côtoie tous les jours qui utilisent leur cerveau, bah, il y a les dégustateurs, il y a les professionnels du vin, qui sont, qu'ils soient sommeliers, œnologues ou autres. Et c'est des gens qui ont une connaissance assez empirique du fonctionnement de leur outil de travail, qui est leur cerveau et les extensions sensorielles, finalement, qui sont dans leurs yeux, dans leur nez, dans leurs... Et du coup, j'essaie aussi, à côté de mon activité principale, de transmettre ces connaissances scientifiques qui aujourd'hui explosent et de les transmettre justement à des gens qui ont besoin d'avoir ces connaissances pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir augmenter en performance, pour pouvoir développer des nouvelles expériences aussi pour les clients, les dégustateurs, les amateurs. Et puis aussi pour peut-être aussi réussir à mieux se calibrer, réussir à parler le même langage, comment on fait pour... entre une molécule chimique qui serait présente dans le vin et le mot que je vais utiliser pour le décrire, comment on fait pour s'aligner, comment on fait pour réussir à avoir finalement quelque chose qui unifie la perception et la chimie du vin. Et donc ces deux fonctions-là, ouais, c'est ce travail de vulgarisation, je le fais à différents niveaux, que ce soit pour des écoles de formation, des écoles de dégustation, ça peut être aussi pour les professionnels du vin, que ce soit des œnologues, que ce soit l'Union des œnologues de France, par exemple, que ce soit aussi des sommeliers, et puis un petit peu aussi dans les médias aussi, puisque le but du jeu, c'est aussi de trouver un maximum de canaux pour communiquer avec les amateurs de vin, qu'ils soient jeunes débutants ou grands professionnels.
Ouais, c'est vrai que c'est un sujet, on va revenir sur ta carrière avant de poursuivre, mais tu vois, moi, j'ai un peu une expérience au moment de déguster le vin qui est assez frustrante, et je pense que c'est parce que je me suis pas assez formé sur ce sujet-là. C'était je sens quelque chose ou je goûte quelque chose. J'ai la sensation d'avoir ça quelque part en mémoire, tu vois, de me dire je connais ce parfum ou je connais ce goût, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. Tu sais, j'arrive pas à exprimer ce que c'est. Et ça, c'est un des trucs les plus frustrants qui puisse arriver.
Ouais, ça arrive à plein de gens bien. Ne t'inquiète pas, c'est pas une maladie. Tu connais, mais tu ne reconnais pas.
Exactement.
C'est le travail de reconnaissance qui est le plus difficile. Reconnaître, c'est connaître de nouveau. C'est-à-dire mettre en connexion l'image sensorielle qui se crée dans ton cerveau à partir d'un vin, d'une odeur, d'une image. La mettre en connexion avec ta mémoire. Et ce travail de reconnaître à travers sa mémoire, ça veut donc dire que si ta mémoire n'est pas bien organisée, si elle n'est pas bien optimisée dans son flux, dans sa anatomie fonctionnelle, tu vas avoir des problèmes pour reconnaître, c'est-à-dire associer, retrouver le mot, le nom, le contexte dans lequel tu as senti cette odeur ou vu cette image-là. Et c'est ça que peut-être qu'il faut déjà comprendre, c'est que un expert du vin, si on prend par exemple les sommeliers comme des grands experts, ou dans le monde de l'odorat, moi, pour les plus grands experts, ça reste beaucoup les parfumeurs avec qui on s'interroge aussi sur d'autres fonctions. Ces gens-là, ils n'ont pas un nez meilleur que une autre personne dans la rue. Ils n'ont pas des capacités de détection olfactive qui sont bien extraordinaires. Non, ce qu'ils ont de plus par rapport à toi et à moi, c'est qu'ils ont une mémoire extraordinaire. qu'ils ont construit après 10 ans, 20 ans, 30 ans de travail. Et cette mémoire, elle est extrêmement précise. Il n'y a pas d'interférence. Elle est bien optimisée. Les agrumes sont rangés avec les agrumes, si tu veux. Les fruits secs sont rangés avec les fruits secs. Ils ont organisé leur mémoire avec des bonnes catégories. Et ça, ça leur permet rapidement, tu vois, d'identifier une odeur et de mettre un nom dessus. Mais aussi, plus facilement aussi, de le reconnaître quand il est caché dans un mélange. Ça permet aussi de mieux discriminer les choses. C'est-à-dire que quand tu as un citron vert et un citron combava, tu peux les mélanger. Mais si t'es un expert, ces deux images qui se ressemblent, l'expert va te dire non, c'est pas la même chose. Il va bien associer un mot à chacun des deux objets. Et ce travail d'organisation de la mémoire, tu vois, qui te permet de voir mieux, de voir plus fin, de voir dans du bruit, de discriminer les choses, ça passe par la mémoire. Ça passe vraiment par la mémoire. Et la mémoire, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que pour trouver la mémoire, il faut aussi qu'elle s'organise avec des mots, notamment. Ta mémoire se construit sur des mots, et s'il n'y a pas de mots, la mémoire disparaît. Donc derrière cet exercice de reconnaître, c'est connecter sa mémoire des mots, sa mémoire sémantique, sa mémoire dans les aires du langage, avec les aires sensorielles. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué.
Ouais.
Et ça demande du temps. Je te dis 20, 30 ans pour qu'un expert des odeurs devienne officiellement né de création dans une maison de parfumerie.
Bon, j'ai pas à rougir, alors rendez-vous dans 20, 30 ans pour voir le progrès. Mais ouais, je te rejoins beaucoup, surtout sur la discrimination entre des éléments qui sont proches. Tu sais, parfois je fais le nez du vin, avec les petites fioles là, où tu sens des arômes. Et alors, ça m'arrive de pas savoir, mais ça m'arrive aussi d'hésiter pas mal entre deux arômes qui sont très très proches, genre... truffes et champignons, parfois tu... Alors ça, c'est... quoi que ça, c'est assez reconnaissable, mais parfois abricot pêche, par exemple, là, tu te dis, je sais pas lequel des deux c'est exactement, donc ouais, je te rejoins sur la partie discrimination. Revenons peut-être sur ton parcours avant de replonger dans tous ces sujets. Comment est-ce qu'on devient neuroscientifique spécialisé dans les perceptions?
Alors, c'est une discipline qui appartient un petit peu au monde médical. Comme tu l'as compris, le cerveau, c'est un organe qu'il faut soigner. Et c'est aussi un objet qu'on regarde du point de vue scientifique, du point de vue de la recherche fondamentale. Et moi, je suis pas rentré par la médecine, je suis pas médecin. Je suis rentré plutôt par la filière académique. Je suis rentré dans les écoles normales et à l'école normale de Lyon, je me suis rapidement spécialisé en neurosciences. Ça, c'était au début des années 2000. Il faut se rendre compte, au début des années 2000, il y a une explosion de pas mal de technologies qui permettent enfin d'explorer le cerveau à la dimension de cet organe-là. Et on a fait des découvertes énormes en 20 ans qu'on n'aurait pas pu faire avant les années 2000. Je pense à des outils numériques, des outils de microscopie, des outils physiques, chimiques, génétiques. Tout ça a vraiment explosé. Et dans les années 2000, moi, je me suis engouffré un peu dans cette ascendante pour pouvoir étudier un organe qu'on connaissait pas et dans lequel on avait plein de découvertes à faire. Donc, après ma formation en biologie moléculaire, cellulaire, après avoir passé l'agrégation de sciences de la vie, sciences de la terre, je me suis spécialisé en neurosciences. J'ai fait ma thèse de doctorat à Paris dans un laboratoire de psychiatrie de neurosciences. Et déjà, j'étais intéressé par l'aspect sensoriel puisque c'était une thèse justement sur les troubles de la perception liés au vieillissement et à la maladie d'Alzheimer. Comment et pourquoi le système olfactif est un sens qui dégénère assez précocement dans la maladie d'Alzheimer? Et si c'est le cas, quel est le mécanisme qui enclenche ce truc-là? Donc ça, c'est une très grande question, mais ça, il faut le savoir. Le système olfactif, c'est pas juste un organe intéressant à étudier du point de vue de la perception. C'est aussi un organe qui peut être un indicateur du fonctionnement de ton cerveau. Et nous, on l'utilise aussi comme ça, un outil diagnostique pour plonger dans le cerveau et pour interroger des fonctions cérébrales. On l'a tous vécu, la perte d'odorat. C'est un léger handicap, pas autant qu'être aveugle, mais on a tous subi ces 10-15 jours d'anosmie avec le Covid, par exemple, où on le vit une fois par an quand on a un rhume avec une grosse congestion nasale. C'est pas agréable, c'est pas handicapant, mais ça nous montre quelque part, le jour où il disparaît, qu'il y a des fonctions particulières qui sont véhiculées par ce sens-là. Et nous, on l'utilise voilà, pour accéder justement à des fonctions, en particulier les fonctions émotionnelles du cerveau.
Ok, donc c'est un peu à ce moment-là où t'as commencé à rentrer dans ce sujet.
Donc là, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. À l'issue de mon travail de thèse, j'ai continué en post-doctorat, à l'Institut Pasteur. On m'a offert un poste pérenne et permanent là-bas, donc j'ai accepté. Et à côté de ça, j'avais une vraie passion pour le vin, qui est née de ma gourmandise, on va dire, naturelle. Pas forcément d'une culture familiale très forte. Mon père et mes parents n'avaient pas une cave à vin avec 6000 références. Non, c'est venu petit à petit en école, bien sûr. Les écoles sont des endroits où, très dynamiques où il y a des clubs de logique qui sont très dynamiques. Déjà au début des années 2000, c'est là où on voyait l'émergence aussi de toute cette culture dans les grandes écoles, en particulier de cet appétit pour le vin. Et moi, je me suis pas mal investi là-dedans. Et puis pendant ma thèse, toujours amoureux de vin et envie de goûter des grands vins, même si on a un petit salaire d'étudiant. J'ai servi dans une école de dégustation qui s'appelait Grenoble, qui est une école où l'effort de mettre la table et de faire la vaisselle, on avait le droit de déguster beaucoup de vins qu'on n'était pas capable de se payer. Et moi, je me suis beaucoup formé là-dessus, à goûter des vins avec les vignerons, à goûter aussi des vins avec des journalistes, avec des sommeliers. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment, en fonction de ton métier, la dégustation s'oriente différemment. Chaque métier a une intention différente quand il déguste, parce que c'est pas le même objet, le même prisme de regard. Et j'ai trouvé ça, cette formation, extrêmement intéressante. Le jour où la passion et la profession se sont croisées, ça remonte à un événement un peu fondateur qui m'a marqué. On était dans les années, 2014. L'Union des œnologues de France organise chaque année un congrès qui rassemble toute la profession et demande à notre laboratoire de faire une présentation sur la perception des odeurs. Mon chef me dit « Bon, Gabriel, amateur de vin, c'est pour toi, je te laisse l'exercice. » Et donc, je me présente là-bas avec une petite présentation d'une demi-heure où je raconte des choses qui, moi, me paraissent très banales, très, très classiques, presque un peu scolaires. Et en expliquant ça devant les onogues, je vois devant moi un appétit fantastique, des gens qui sont effarés de ces connaissances-là, qui une standing ovation. Et je me dis, mais pourquoi ces connaissances-là génèrent autant d'enthousiasme dans une audience à qui j'ai raconté des choses qui sont assez banales. Et je découvre que le monde du vin, et des professionnels du vin en particulier, des onogues en particulier, sont des personnes qui se forment beaucoup à la chimie du vin, à la viticulture, à la microbiologie, à tous ces processus chimiques et microbiologiques qui sont là, mais sont pas forcément des personnes qui sont éduquées et dans leur formation à comprendre comment fonctionne leur outil de travail, comment fonctionne leur cerveau, ou comment fonctionne le cerveau des futurs clients, des futurs dégustateurs. Et là, je vois qu'il y a un vrai vide, une vraie niche quelque part aussi, où j'ai essayé de me dire, mais s'il y a un appétit pour autant de connaissances sur le cerveau, il faut que je remplisse ma mission de transmettre ces connaissances-là. Elles sont disponibles, elles sont dans les tiroirs, mais elles n'ont pas vertu à rester dans les laboratoires. Il faut les transmettre à des personnes qui en ont besoin. Et donc, les œnologues étaient un très bon exemple, mais maintenant, les vignerons aussi ont envie de comprendre plein de choses. Ils s'interrogent. Parfois, ils ont des intuitions aussi, sur lesquelles nous, on peut apporter des vérités scientifiques, qui parfois confirment ou infirment aussi des intuitions. Et inversement aussi, les vignerons, les œnologues ont des intuitions sur le fonctionnement du cerveau. Et ces questions-là, dont on n'a pas forcément la réponse, on s'en munit, on fait une recherche dans le laboratoire, on effectue un travail de recherche pour finalement redécouvrir le mécanisme que le vigneron avait pressenti dans sa tête après 10, 20, 30, 40 ans d'expérience. Donc c'est un travail qui s'est fait à deux. Et finalement, aujourd'hui, ce travail de transmission des connaissances scientifiques dans le monde du vin, et maintenant un peu plus dans le monde de la gastronomie, de la parfumerie, pour moi, c'est une manière de transmettre des connaissances scientifiques au grand public et de le faire sur un sujet qui évoque le plaisir, qui évoque le social, qui est un objet qui est plaisant. On ne parle pas de maladie, là, on parle vraiment du plaisir de déguster, de comment s'améliorer, de comment gagner en confiance. Et ça, c'est un terrain de jeu pour parler de science fantastique. Et en même temps, finalement, le vin nous permet de parler du cerveau. Et le cerveau nous permet de parler du vin, et donc finalement le mariage était évident.
Ça fonctionne plutôt bien, c'est clair. Alors justement, rentrons dans le sujet. Comment est-ce que je fais pour déjà, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau peut-être au moment où je déguste un vin? Donc tu sais, moi, j'ai un peu l'approche traditionnelle de la dégustation de vin, quoi. Je regarde, je sens et je déguste. C'est un peu le standard. Je suppose qu'il se passe des choses. C'est un peu des canaux différents. Je suppose qu'ils sont activés entre les différents sens. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une concordance entre les trois? Est-ce que tu vois comment ça fonctionne ces premiers instants après la dégustation?
Alors, avant de se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, il faut déjà regarder un peu le vin. Quels sont les canaux sensoriels, comme tu disais, qui interagissent avec le cerveau? Et le vin est probablement un objet unique dans sa capacité à communiquer avec beaucoup de canaux par rapport à d'autres objets. Si tu compares une peinture ou si tu compares ce que tu fais quand tu écoutes un morceau de musique, bah, quand tu bois un verre de vin, tu vas le voir, donc tu vas le regarder, tu vas utiliser le canal visuel. Tu vas peut-être aussi écouter les commentaires du sommelier, du vigneron qui est autour de toi. Donc, il y a des informations qui sont contextuelles, qui rentrent par les yeux et par les oreilles. Mais tu vas aussi le sentir avec ton nez. Tu vas le sentir en orthonasal, donc par le nez, ou en rétronasal, par l'arrière de la bouche, quand le vin est en bouche, qui va, tous les arômes qui vont passer à l'arrière de la bouche. Tu vas analyser le vin du point de vue gustatif. Tu vas analyser le vin du point de vue tactile. Mmh. Du point de vue aussi de tout ce qui est piquant, irritant, tout ce qui est trigéminal. Et donc, un simple verre de vin, ça a l'air simple à déguster. Mais du point de vue sensoriel, c'est très compliqué pour le cerveau. C'est un des rares moments de ta vie. J'entends le vin, mais la gastronomie en général, c'est un rare moment de la vie où il y a autant de sens qui sont mobilisés au même moment. Et le cerveau, il a plein d'informations qui lui arrivent au même moment, en même temps. Et dans le cerveau, ça se voit très bien. Il y a une explosion d'activité dans plein de régions en parallèle qui fait que le cerveau, il est plus en ébullition face à un verre de vin ou à un plat que devant une peinture ou devant un simple morceau de musique. Donc le cerveau, il doit faire donner du sens à tout ça, toutes ces informations qui arrivent en même moment. Il doit du coup essayer de faire une synthèse. Il va essayer aussi de pondérer les informations. Il y en a certaines qu'il va privilégier auprès d'autres. Et puis après, le cerveau, on peut discuter un petit peu, il est aussi plein de biais. C'est que parfois, il va essayer de reconstruire une image globale, des éléments parcellaires qu'il a reçus dans différents sens. Et dans ce travail de reconstruction, bah, parfois, cette reconstruction, elle va un peu au-delà de la réalité. Parfois, on reconstruit quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité physique ou chimique du verre qui est devant nous. Et ce travail de reconstruction, il faut s'en rendre compte, notre cerveau est en perpétuelle reconstruction. Les images qu'on a devant nous, c'est un travail de reconstruction. Le cerveau, ce que tu as comme conscience de l'image que tu as devant toi, c'est pas vraiment l'image. C'est la manière dont ton cerveau a reconstruit ce truc. Et donc ça, première chose à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui rentrent dans le cerveau. Et dans ce travail de synthèse que fait le cerveau, parce qu'à la fin, tu as un vin qui est devant toi, qui rentre par 1, 2, 3, 4, 5 canaux sensoriels différents. Mais à la fin, le cerveau, il doit mémoriser une mémoire d'un objet. Et ce travail de synthèse, on le voit à différents niveaux, y compris en particulier dans le vocable qu'on utilise pour parler d'un vin. Quand on dit que qu'un vin ou qu'un plat a du goût, tu vois, le mot goût, c'est un mot unique, mais on voit bien que c'est un mot qui a plusieurs dimensions. Quand je dis que ce vin a pas de goût, ou qu'il a trop de goût, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trop de parfum? Est-ce qu'il a trop de saveur? Est-ce qu'il a trop de texture? Quand on dit qu'on a perdu le goût suite à un rhume, qu'est-ce que j'ai perdu? Le nez, la bouche, les saveurs, les textures? Ça, c'est... Le cerveau va avoir tendance à faire ça. Il y a un mot que moi, j'aime bien aussi déconstruire, qui montre parfois le piège que veut nous tendre le cerveau, le mot minéralité, par exemple.
Ouais.
Voilà un mot qu'on aime bien tous utiliser. Quand tu me dis, Gabriel, je t'ai apporté un vin minéral pour déguster, je vais à peu près comprendre et à me faire une idée de ce que tu proposes. Mais un vin qui est minéral, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est minéral au nez, parce qu'il y a des arômes qui rappellent la roche qu'on a frappée, un objet minéral qui rappelle les odeurs? Est-ce que c'est des saveurs? Est-ce que c'est une salinité qui rappelle les sels minéraux? Est-ce que c'est des textures tranchantes, pointues, froides, qui rappellent aussi le monde minéral? Tu vois, voilà un mot qui est efficace et en même temps qui est flou, et qui finalement trahit cette volonté que le cerveau a de synthétiser les choses.
Ouais, c'est un peu peut-être boisé, ce serait quasiment pareil, non?
Oui, boisé, on peut imaginer, c'est un peu plus précis, mais dans le même style, un vin qui est frais.
Ouais.
Ah, la fraîcheur, ouais. On veut ici mettre en avant de plus en plus la fraîcheur du vin, réchauffement climatique nous aidant. Mais un vin frais, c'est quoi? C'est un vin qui est froid, c'est un vin qui est désaltérant. Déjà, tu vois, il y a deux pôles qui se différencient. Si tu veux un vin frais, c'est pour te rafraîchir ou pour te désaltérer? Et est-ce que c'est une fraîcheur que t'as au nez, que t'as en bouche? On peut rentrer dans les détails pour se rendre compte que définir la fraîcheur d'un vin, en fait, ça a l'air évident, mais c'est pas très simple.
Est-ce qu'il se passe quelque chose de différent si j'aime ou si j'aime pas?
Alors,
et comment c'est une information qui arrive et qu'est-ce qui se passe pour déterminer ça?
Le j'aime ou j'aime pas, c'est déjà une interprétation des stimuli qui est liée donc au réveil du centre des émotions, qui gère aussi tous les automatismes liés aux émotions. Donc quand j'aime ou j'aime pas, c'est aussi derrière ça une grimace de rejet, mmh. ou au contraire un comportement plus avenant où j'en reprends un verre ou je rachète quelque chose. Donc c'est derrière chaque émotion, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça mettre en mouvement, il y a l'idée d'une action qui peut être très binaire, très automatique, rejet ou au contraire j'adore. Et donc on est déjà en interprétation. Et ton émotion peut changer d'ailleurs en fonction, pour le même objet, peut changer en fonction de la journée. Là, tu vois, il est 13h, peut-être t'as pas mangé, t'as super faim, tu vas passer tout à l'heure devant un resto ou un kebab qui fait une viande grillée très grasse, cette odeur va te mettre en appétit, tu vas acheter un sandwich, tu vas le prendre, tu vas ensuite repasser par cet endroit, mais cette fois-ci avec un changement de ton état qui n'est plus celui de la faim tout à l'heure, mais au contraire de la satiété, et ben là, cette odeur de gras, de friton, tout ça, ça va te donner envie de, au contraire, de fuir cet endroit qui n'est plus du tout la valence que l'avait tout à l'heure. Donc tu vois, ton émotion aussi peut changer en fonction de comment tu es. Cette idée de j'aime ou j'aime pas, elle est importante parce qu'il y a aussi cette idée, donc on peut changer d'état émotionnel en fonction de notre état interne. On peut aussi changer en fonction de notre apprentissage. Il y a cette idée, on va peut-être y venir, de qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est pré-câblé dans mon cerveau, qu'est-ce qui est pré-câblé par mes gènes, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas? Il y a des choses qui sont pré-câblées pour être rejetées par l'organisme, par les mammifères en général. Par exemple, je prends un exemple, l'amertume. Tu prends un petit bébé de quelques jours, tu lui fais goûter un objet amer, il a jamais goûté un objet amer de sa vie. Tu lui fais goûter ça, tout de suite, il va avoir une grimace d'ouvrir la bouche, de tirer la langue, que tu vas retrouver exactement la même chez d'autres mammifères. Si tu fais goûter ça à d'autres mammifères, je sais pas, un rongeur, un singe par exemple, un chimpanzé, on voit les mêmes grimaces apparaître. On est pré-câblé pour rejeter l'amertume. Et ce pré-câblage, il est inné, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans tes gènes. Ce comportement de rejet inscrit dans tes gènes, on pourrait expliquer pourquoi. Une des raisons qui fait qu'on a ça conservé chez tous les mammifères, c'est qu'on a des récepteurs qui détectent des composés amers dans notre alimentation, qui sont en fait pour beaucoup potentiellement toxiques.
Okay.
Et donc l'amertume, c'est un sens que les mammifères ont développé à travers 25 capteurs qui sont situés dans ta bouche, qui sont là pour te prémunir d'une intoxication potentielle. Potentielle, j'ai bien dit, parce que tous les objets amers sont pas toxiques, mais si on fait la liste de beaucoup d'objets amers qu'on a répertoriés dans le monde, il y en a plus d'agents toxiques là-dedans dans cette liste que dans une liste random. L'idée vient que à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs, donc il y a très très longtemps, tu savais si un objet était amer en le goûtant, et si c'était amer, tu prenais le risque potentiellement de t'intoxiquer. Les objets amers étant pour certains fabriqués par les plantes pour se défendre contre des prédateurs qui justement les ravageaient.
Ouais, c'est un peu comme ce truc des serpents où par définition l'homme a peur des serpents et sait bien les repérer ou quelque chose comme ça.
Si tu veux, alors l'amertume c'est encore mieux câblé pour une réponse, parce que dès que tu mets un objet amer dans ta bouche, il est déjà presque un petit peu dans ton corps, et ce réflexe de la sensation de l'amertume, il faut qu'il soit très rapide et efficace, parce que si tu ingères l'objet, après c'est fini. Il y a plus de porte de sortie.
Comme les arêtes, en fait.
Si tu veux, il y a quelques réflexes de vomissement après, etc. Mais on est déjà presque un peu trop tard. Donc ça, c'est un exemple, de quelque chose qui est pré-câblé. Il y a des choses qui sont pré-câblées pour être appétitives. Le sucre, par exemple, tu prends un enfant qui a jamais bu du sucre, tu lui fais goûter un morceau de sucre, c'est un sourire que tu vas voir sur son visage. Parce que c'est pré-câblé comme étant une saveur qui signale un objet qui est riche du point de vue nutritionnel. Et puis là-dessus se greffe l'apprentissage. La culture, l'expérience. On a parlé de l'amertume, on n'a pas encore partagé un café, mais on va le faire peut-être tout à l'heure. Toi et moi, on aime le café, on aime l'amertume du café, on aime l'amertume des vins rouges, on aime l'amertume de certains cocktails. Et pourtant, je te l'ai dit, on est pré-câblé pour jeter l'amertume. Mais ce pré-câblage, petit à petit, on va désapprendre avec le temps. Et le temps chez l'humain, l'éducation, ça prend du temps. Ça peut prendre 10, 20 ans, petit à petit, avant que tu aimes le café. On va désapprendre ce réflexe naturel qui est pré-câblé dans le gène pour réapprendre les bonnes vertus de l'amertume. Moi je me rappelle d'expériences qui m'ont marqué. C'est la première fois que j'ai goûté une petite goutte de vin rouge en débarrassant la table de mes parents, en vidant les verres discrètement, ou en buvant le reste d'une tasse de café. On se dit, ouais, mais c'est super amer. Et en même temps, on se questionne, on se dit, mais c'est super amer, mais pourquoi mes parents, pourquoi les gens ont autant de plaisir à partager un café, à partager une bouteille de vin rouge? Il y a quand même quelque chose derrière qui est intéressant. Et donc ça te montre qu'on peut réinscrire, si tu veux, des préférences innées par l'apprentissage. Et donc l'apprentissage change beaucoup de choses. Ce que je décris pour l'amertume et pour les saveurs, on peut voir la même chose dans les odeurs. Il y a des odeurs qui sont pré-câblées pour être rejetées. Il faut pas avoir rencontré une odeur de viande en putréfaction, d'odeur de cadavre, pour savoir que c'est une odeur qui est potentiellement dangereuse, qui signale une source de danger. On est pré-câblé pour rejeter certaines odeurs. Des odeurs d'objets qui se décomposent en fermentation, des protéines qui se décomposent. Naturellement, on est pré-câblé pour rejeter ça. Et puis, il y a des odeurs qui sont appétitives, parce qu'elles signalent potentiellement quelque chose qui peut être nourrissant pour nous. Mais là encore, l'expérience va nous transformer. Exemple, l'odeur de Roquefort, ou l'odeur de d'un parmesan, par exemple, un Parmigiano Reggiano, tu vas avoir des composés dans un parmesan ou dans un Roquefort, notamment des acides carboxyliques, comme l'acide butyrique, qui sent littéralement le vomi. Mais avec l'apprentissage, on commence à apprécier le Roquefort, et on apprécie le Roquefort pour sa globalité. Mais sans cet apprentissage-là, demande à un Américain de déguster un morceau de Roquefort pour la première fois de sa vie, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tu viens de faire manger, c'est horrible, tu veux me tuer, quoi. Donc c'est voilà, il y a ces deux événements qui cohabitent, et l'homme a parmi dans le monde mammifère, l'homme est vraiment celui qui se construit beaucoup dans la culture, dans l'expérience. C'est une des rares espèces aussi qui construit son cerveau aussi dans l'expérience. Son cerveau continue à se développer. Une fois qu'il sort du ventre de maman, le cerveau est encore imparfait et le cerveau va se construire dans le monde qui l'entoure. Et l'expérience du monde va modifier son propre cerveau. Donc ça, c'est une chose qui est assez unique en nous. On a cette part d'inné, cette part d'acquis qui se juxtapose et qui, ensemble, font qui nous sommes.
Je pense qu'on a tous détesté notre première bière ou notre premier café. C'est assez marrant. J'en parle souvent avec des potes d'ailleurs. En nous disant mais c'est marrant le café, je pense que le premier que j'ai pris, j'ai dû le prendre à une machine à café parce que c'était stylé, c'est un intervalle de cours ou un truc comme ça, en disant mais c'est horrible, mais tu bois quand même parce que t'es là. Et en fait quelques années plus tard, maintenant je vais dans des cafés que je connais parce que je sais qu'ils torréfient de telle manière sur place, des gars qui viennent de tel endroit parce que j'aime bien tel truc, telle région et tout ça. Enfin, tu vois, je suis devenu un geek du café alors qu'il y a 8 ou 10 ans, c'est un truc que je pouvais pas boire et que je trouvais pas bon. Donc ouais, je comprends complètement. Tu parlais justement de dîner et d'acquis, du cerveau qui change avec l'expérience. Moi, si je me rappelle mes cours de SVT, c'est la plasticité cérébrale. Là, je dédicace mon prof de SVT au lycée. Comment ça marche justement? Attends, je vais reformuler ma question plutôt. Si j'ai un enfant et que je veux qu'il soit performant dans ces sens-là, tu vois, si je veux réussir à lui permettre d'expérimenter le plus possible dès la naissance son sens gustatif ou son odorat, comment est-ce qu'il faut faire? Enfin, je sais qu'il y a moi j'ai pas encore d'enfant, mais ce truc de tu dois donner à manger petit à petit des trucs différents, quoi. Bon, je le dis avec mes mots parce que j'y suis pas, mais est-ce que c'est comme ça que ça marche? Enfin, comment est-ce que le cerveau réagit à ça?
Alors, dans la vie de l'enfant, il y a des phases importantes. On pourrait penser que la construction du goût se passe à partir du moment où l'enfant mange. C'est pas tout à fait exact. On se rend compte que dans le dernier trimestre de grossesse, le bébé qui est encore un embryon quelque part, qui est encore immature, il y a certaines fonctions cérébrales qui sont déjà matures. Le système olfactif est mature, par exemple. Et la fonction mnésique est aussi déjà assez opérationnelle. Et donc, il y a des chercheurs qui ont montré que ce que mange la maman, si les éléments aromatiques qui sont présents dans sa nourriture sont capables de diffuser dans le sang et dans le liquide amniotique, ces composés vont aromatiser le liquide amniotique et le bébé, ou le futur bébé, va interagir avec ce liquide et mémoriser quelque part si c'est bon ou c'est pas bon, si l'état dans lequel est ma maman est associé à ce parfum-là. Et on voit que cette exposition précoce, vraiment très précoce, tu vois, se répercute après sur les préférences de l'enfant. L'enfant, quand il sort du ventre de maman, on lui présente deux laits, un lait normal et un lait aromatisé avec la substance que maman mangeait dans le dernier trimestre de grossesse. Et ben, le bébé a une préférence pour cet objet-là.
Incroyable.
Alors, cette expérience-là, pour te montrer un peu la blague aussi qu'on peut générer là-dessus, pour s'en rappeler, cette expérience, elle a été faite avec une substance qui s'appelle l'anétol, qui est un composé qui a un goût d'anis.
Okay.
Et alors, quand cet papier est sorti, Benoît Chal, donc un chercheur qui est à l'université de Dijon, il voit que les enfants ont une préférence pour l'anis après la naissance. Et donc les journalistes s'engouffrent là-dedans en disant bah maintenant on a compris pourquoi on aime le pastis, quoi.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose qui se crée très tôt.
Bizarrement, c'était à Marseille.
Alors c'était pas à Marseille, c'était à Dijon, mais derrière ça se cache on parle de la culture, la transmission culturelle. Tu vas voir petit à petit quand tu auras des enfants, etc., il y a des choses qui se transmettent aussi d'une maman à une autre pour stimuler la lactation, on a une tradition dans certaines parties de France de prendre des tisanes de fenouil, qui est très galactogène, c'est une substance qui stimule la production de lait. Et en fait, quand tu prends cette tisane, tu aromatises aussi ton lait. Et donc, la première nourriture que l'enfant prend, c'est le lait de sa mère, mais le lait de sa mère, il est aussi aromatisé à la lumière de ce que maman mange. Et donc, l'enfant est déjà en train de s'imbiber, avec des guillemets, de ce que maman a mangé, et la maman est déjà en train de transmettre des préférences à l'enfant, à partir de sa nourriture. Donc ça te montre que le bébé est pas vierge, le bébé se construit, et effectivement, déjà, même si le lait a l'air d'être simple, c'est un objet complexe qui véhicule déjà des messages et qui véhicule de la culture. Donc ça commence déjà très tôt. Alors le bébé parle pas encore, il est pas encore capable de mettre un mot pour dire c'est de l'anis, c'est du curry, c'est du fenouil. Il va le faire ça plus tard, mais il est déjà en train de mémoriser des choses. Il y a une accélération dans ce processus-là au moment de la diversification alimentaire. Quand tu passes de la nourriture liquide à la nourriture solide, entre 4, 6 mois, 1 an, en fonction des cultures, ce moment où on introduit de la nourriture solide, ta première purée de carottes, ta purée de pommes de terre, d'artichaut, j'en sais rien, c'est un moment clé. C'est un moment clé parce que, pareil, encore une fois, beau travail de l'Université de Bourgogne à Dijon qui montre que la diversité des aliments qu'on est capable d'ingérer et d'apprécier à l'âge de 7 ans, il est très fortement lié à la diversité des aliments auxquels j'étais exposé dans cette période de diversification alimentaire entre 6 mois et 1 an. Et donc c'est un moment aussi charnière où l'enfant, même si tu lui mets une purée de carottes dans la bouche et qu'il recrache, c'est pas grave, ne sois pas frustré, c'est l'école de la frustration de toute façon cet exercice-là. Il faut continuer et pas lui faire manger tout le temps ce qu'il aime, mais au contraire être dans la diversification. C'est un moment où les bébés sont assez ouverts aussi, il n'y a pas trop de néophobie, donc de peur de la nouveauté. Et plus je lui expose à des choses différentes, mieux il sera armé pour accepter et s'ouvrir à une diversification alimentaire après. Donc il y a des choses qui se construisent, voilà, très très tôt. Et puis petit à petit, après l'enfant grandit, développe son langage aussi et va commencer à mettre des mots sur des saveurs, mettre des mots sur des goûts. Les enfants sont très curieux et très avides de faire ces exercices-là. Et ces premières phases d'apprentissage où j'apprends qu'un citron c'est jaune et que ça s'appelle citron et que c'est acide et qu'il y a tel parfum, eh ben ça se branche très tôt, et une fois que cette mémoire est là, elle va rester là pendant toute la vie. Et donc là aussi, l'apprentissage qu'on débute assez tôt dans l'enfance, et quand on commence à parler, il est extrêmement important, parce que c'est notre première bibliothèque, les premiers livres que tu mets dans ta bibliothèque, c'est à ce moment-là que tu les construis. Et là, la diversification des objets, la richesse du patrimoine olfactif, aromatique, gustatif que tu mets dans la tête de l'enfant, va construire après la manière dont il va s'orienter sur son alimentation, mais surtout être capable de décrire le monde gastronomique qu'il a en face de lui plus tard.
Et est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard? Tu vois, moi, alors j'ai une expérience personnelle qui fait que je pense que tu vas répondre non, mais pendant longtemps, j'ai pas aimé le fromage. Je pense que, je sais pas, il a dû se passer un truc quand j'étais jeune où mes parents ont dû tenter de me faire goûter un fromage que j'ai pas aimé ou peut-être pas au bon moment ou quelque chose comme ça. Et donc pendant longtemps, j'aimais pas le fromage. Et je regoutais pas ensuite parce que c'était un peu inscrit dans ma personnalité, tu vois, que Antoine il aime pas le fromage. Quand il y avait un plateau de fromage, je sentais des odeurs que j'aimais pas trop, donc je le passais, je voulais pas regoûter. Et je dirais que vers les, en fait, à peu près au même moment où j'ai commencé à m'intéresser plutôt beaucoup au vin, forcément t'as le fromage qui est pas loin, donc tu goûtes, tu comprends qu'il y a des trucs qui sont pas mal. Donc je pense que vers, je pense 20 ans, j'ai 19-20 ans, j'ai dû commencer à regoûter du fromage. Et là, tu vois, j'ai 27 ans et je vais minimum une fois par semaine chez mon fromager. Il y en a tout le temps dans mon frigo, donc je me dis que je suis pas un cas isolé et que c'est jamais peine perdue. Mais comment est-ce qu'on fait pour changer potentiellement de goût? Et d'ailleurs, j'ai le même exemple sur le chou-fleur. Quand j'étais petit, je détestais le chou-fleur. Et maintenant, régulièrement, je m'achète un chou-fleur, je le mets au four, je mange et tout ça. Enfin, tu vois, j'ai une perception qui a complètement changé. Donc, je suppose que c'est pas peine perdue, mais qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, faut se rendre compte que tu n'es pas la même personne que quand tu avais 10 ans et ta physiologie change aussi. On parlait de l'amertume tout à l'heure. Voilà, les seuils de perception de l'amertume changent avec l'âge. Un enfant et toi, considérons que vous avez exactement la même génétique, un enfant va avoir des seuils de perception de l'amertume qui sont un peu plus bas, donc qui sont plus l'amère. Et donc, tu auras beau lui dire « Mais non, il est pas amer ton chou-fleur, il est pas amer ton brocoli. » Lui, il va dire « Mais si, c'est amer. » Laisse-lui ce jugement, c'est le sien, et c'est surtout parce qu'il a des seuils de perception de l'amertume plus faibles que nous. Notamment, il y a une des raisons qui explique ça, c'est la composition de la salive des enfants n'est pas tout à fait la même. Et du point de vue évolutif, ça a un intérêt, c'est que, imagine, on serait tous les deux des chasseurs-cueilleurs, on pèse 70 kilos chacun, on serait avec notre enfant qui pèserait 10 kilos. Si chacun de nous, on prend une baie toxique, moi, cette baie toxique, diluée sur mon poids, peut-être qu'elle va pas me tuer. Et l'enfant, s'il prend cette baie toxique, qu'il la mange, rapportée à ses 10 kilos, il va peut-être mourir. Donc, évolutivement, c'est intéressant que les enfants ont des seuils d'amertume plus bas pour pouvoir potentiellement sentir un objet toxique avec plus de facilité. Donc ça a changé, ton goût a changé et la personne que tu es aujourd'hui à 20 ans n'est pas la même que quand tu avais 10 ans. D'où aussi le fait qu'on peut ne pas aimer un café un moment et puis l'apprécier plus tard. Après, se construit par l'exposition répétée, des changements de cas de figure. Là, tu parlais d'une préférence qui a changé du point de vue positif, mais les gens qui nous écoutent savent aussi que ça peut passer dans l'autre sens. Aujourd'hui, tu adores les huîtres. Ce soir, un plateau d'huîtres, il y en a une qui est pas bonne, pas fraîche, tu la manges quand même. Tu passes la nuit, pas dans ton lit, mais dans tes toilettes. Et le lendemain, si on te resserre une huître, tu vas faire une sacrée grimace, tu vas changer de couleur et tu vas faire « Non, moi je mange plus d'huîtres, c'est pas possible. » Et cette aversion gustative conditionnée par le malaise que tu as eu peut rester des mois, voire des années, avant que tu oses regoûter à ça. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens. Mais c'est clairement quelque chose qui va... Il faut que le goût du, pour comprendre le fromage, il faut que le fromage soit associé quand tu vas le prendre. Si tu as trouvé que c'était quelque chose qui était trop fort, par exemple, il faut que tu puisses associer ce fromage-là à un plaisir particulier pour que ton cerveau sculpte à la fois une émotion positive. Donc le plaisir, ça peut être le plaisir gustatif intrinsèque du fromage, mais ça peut être aussi le plaisir autour du fromage, des gens qui partagent un morceau de fromage, du vin qui va avec. Donc tu vois, tu aimes le vin, mais tu aimes pas le fromage. Mais chaque fois que je prends du fromage, j'apprécie le vin différemment. Mais le fromage va... être ici, sa capacité à être intéressante pour toi va changer en fonction du contexte dans lequel tu mets. Et ça, c'est très important. Il faut pas que un objet qui peut être repoussant au départ, il faut pas le laisser isoler. Je vois ça très bien avec mes enfants, moi, sur les objets amers. Quand un objet est amer, il faut pas que, par exemple, un brocoli, si c'est amer, il faut pas que l'enfant mémorise que brocoli égale amertume. Sinon, c'est fini pour le brocoli. Alors que le brocoli a plein d'autres choses à raconter. Il a des textures, il a un croquant, il a des couleurs, il a une forme marrante, on dirait un petit arbre. Et il faut pas jamais laisser un objet repoussant tout seul. Il faut toujours essayer de le meubler un petit peu pour que justement l'enfant n'associe pas juste une saveur à un objet. Et ça, c'est très important. Donc, on parlait du brocoli, par exemple. Il faut essayer de convertir et masquer un peu le goût de l'amertume. Comment on fait pour masquer le goût de l'amertume? Là, pareil, il faut rentrer un peu dans la science des capteurs gustatifs. On sait que le capteur de l'amertume, qui se situe sur les papilles de la langue, et qui est porté par un type cellulaire particulier, ces cellules-là sont un petit peu inhibées par d'autres saveurs. Donc, le salé, par exemple, diminue la sensation d'amertume. Le sucré aussi. C'est pour ça que prenons le chocolat, notre objet amer, bah le dosage de chocolat d'une plaquette de chocolat, 50, 60, 70, etc. Et là, en fait, pour te donner une panoplie d'une amertume indirectement diminuée par la présence de sucre. Et donc, à toi de voir, aujourd'hui, t'aimes pas l'amer, tu préfères le chocolat à 70%, mais petit à petit, en te forçant un petit peu et en essayant de comprendre un peu qu'est-ce qu'on démasque, on en voit un peu de sucre, tu vas petit à petit changer peut-être un petit peu ta référence et dire « Ah bah tiens, 80, en fait, c'est pas mal, je me force un petit peu. » Et chacun comme ça peut voir quel niveau d'amertume il aime. Et les enfants, bah tu vois, qui préfèrent le 70, ou toi, maintenant, tu aimes bien manger un 90 sans problème. Donc le sucre, le sel peut diminuer ça. La saveur umami aussi est capable de diminuer un peu l'amertume. Et on peut utiliser ça, justement, pour réduire un peu l'amertume d'un truc. Exemple typique, t'as peut-être mangé des endives à la maison. Les endives, ça peut être amer. Cuite, là, l'amertume peut être encore plus révélée. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer l'amertume cuite d'une endive cuite?
Petite béchamel.
Eh ben, petite béchamel fromagère, dans lequel le salé et le côté un peu umami du fromage va calmer l'amertume. Mmh. On va ramener une tranche de jambon fumé aussi, pour pouvoir avoir une aromatique qui va être persistante en bouche et qui va accompagner la persistance de l'amertume. L'amertume, c'est une saveur qui est très persistante en bouche, qui dure assez longtemps. Et donc, si on la laisse tout seul en bouche, elle se retrouve isolée, donc on trouve ça un peu triste et voire pas bon. Mais si elle se retrouve meublée avec une persistance aromatique, t'as deux couches sensorielles qui se juxtaposent, et là, tout de suite, ça va mieux. Et donc, l'endive passe beaucoup mieux.
Mmh. Ouais, c'est clair. Et après, ça va de mieux en mieux, on finit par la manger en salade ou quelque chose comme ça. Est-ce que, à l'inverse, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que le vin que je goûtais il y a 10 ans est pas du tout le même que celui que je bois aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, je serais incapable de reboire le vin que je buvais il y a 10 ans, alors qu'il y a 10 ans, je le trouvais pas si mauvais que ça. Enfin, tu vois, un Mont Basillac bien sucré il y a 10 ans me posait pas trop de problèmes dans une soirée entre copains. Aujourd'hui, je suis incapable de boire ça. J'entends s'il est mal fait. J'ai rien contre mon Basillac en particulier. S'il est très bon, je le boirai avec plaisir. Donc, est-ce que à l'inverse, il y a une... Alors peut-être que c'est la diversification de ma palette sensorielle du coup qui fait que j'ai attribué des éléments de qualité à certains vins qui font que je suis plus en mesure de disqualifier ou de différencier la qualité de la non-qualité.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un, déjà, tu as peut-être raffiné petit à petit ta sensibilité. Raffiné, c'est-à-dire que tu as précisé un peu plus ce que tu aimes. C'est pas juste une boisson sucrée comme le Mont Basillac que t'aimes bien, mais tu aimes l'équilibre du sucre avec l'acidité. Tu t'es aussi peut-être un peu fatigué avec le sucre. Le sucre, c'est une saveur qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est naturellement appétante. Donc la prise en contact d'un objet sucré, elle se fait très spontanément. On aime le sucre, qu'on le veuille ou non. Mais le sucre, c'est aussi une saveur qui est un peu saturante. On peut boire une bouteille de vin non sucré, finir une bouteille de Mont Basillac, bon courage, en particulier parce que voilà, le sucre est une saveur qui est très saturante. Essaye de manger un morceau de sucre, puis un deuxième, puis un troisième, même si théoriquement c'est extrêmement appétant, tu vas voir qu'à un moment c'est saturant, c'est pas agréable, et presque il te vide un verre d'eau parce que là il me manque quelque chose. Donc le sucre, c'est un produit d'appel intéressant, mais qui au fur et à mesure de notre intérêt pour le vin va petit à petit s'effacer. Après, notre culture gastronomique change aussi. Ce que tu mangeais il y a 5-10 ans a changé. Oui. Et ça a du coup a changé le support qui va accompagner les vins. Le contexte pour boire des vins n'est pas le même aussi. Est-ce que tu le buvais à l'apéro? Est-ce que maintenant il vient sur le repas? Est-ce que il est plus dans un cadre un peu plus solennel d'une dégustation un peu technique? Ça change aussi le style de vin que tu vas avoir. Donc tout ça peut ensemble modifier les choses. Et puis après, nos préférences évoluent en fonction aussi des vins qui changent de style. Les vins qui étaient produits il y a 10-20 ans sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, et il y a des choses qui évoluent à toute vitesse. Regardons le dosage de sucre par exemple, du champagne par exemple, c'est un exemple qui est frappant, l'appétence qu'on a maintenant pour des champagnes plutôt extra bruts, là où il y a 20-30 ans on aimait encore des vins, des champagnes assez dosés à 9-10 grammes, c'était très courant. La génération de mes parents aime toujours ces champagnes bien dosées qu'il plaçait plutôt pour le dessert. Mais là où la champagne a réussi un coup de maître, c'est de dire, mais non, mais le champagne, c'est aussi pour l'apéritif. Mmh. Alors nous, ça nous paraît évident, mais il y a 50 ans, c'était pas le cas du tout. Et le champagne apéritif, bah, c'est forcément, on va pas commencer par un vin extrêmement sucré. On va peut-être chercher quelque chose qui est assez incisif, assez apéritif dans sa fonction, assez désaltérant. Et hop, les choses changent. Donc, à mon avis, il y a tout ça aussi qui peut faire que la personne que tu es aujourd'hui n'est plus la même que celle qui a 5 ans, 10 ans. Et ton goût va évoluer aussi dans le futur. Et qu'est-ce que tu goûteras quand tu auras 50 ans, quand tu auras 70 ans? Je serais bien incapable de le dire. On voit des tendances, mais les tendances qu'on a actuellement des consommateurs qui ont 70 ans, on serait bien maladroit de dire que ce serait la même chose qui va t'arriver pour toi dans 70 ans. Est-ce que dans 70 ans, tu boiras que des Bordeaux, des crus classés de l'arrière gauche? Probablement pas. Le vin aura bien changé et le style de vin aura changé aussi. Et donc, voilà. Il faut par contre rester curieux. Les personnes qui boivent tout le temps le même vin sont peut-être des gens qui justement sont aussi dans le vin face à une forme d'anxiété, une anxiété face à l'immensité des vins et la diversité des vins, sont face à une hantise de pas savoir reconnaître ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils veulent de la confiance et peut-être ces gens-là, il faut les aider un petit peu aussi à leur faire découvrir des choses. Sinon, ils vont rester dans un processus où le vin n'est plus un objet de curiosité, mais un objet juste pour accompagner un repas et qui disparaît finalement de notre cerveau, quoi.
Bon, bah, vous l'aurez compris, buvez du vin d'un peu partout, c'est ce qui est important. Pas que en France, d'ailleurs, il y a des très belles régions en France, mais dans le monde entier, il y a des très beaux vins un peu partout. On en a un tout petit peu parlé ensemble, mais il y a aussi des facteurs externes qui viennent troubler ou modifier la perception des dégustations. Moi, je me souviens de deux choses. La première, c'était Coralie Deboire, qui était passée dans ce podcast, qui m'avait raconté, je crois que c'était sa première année de DNO. Et elle m'avait dit... Le prof avait servi une bouteille de Pétrus et une bouteille d'un vin absolument random, pas très cher quoi. Enfin, il avait sorti les deux bouteilles, mais en fait, il avait inversé les jus, et tout le monde décrivait des arômes spectaculaires, dignes des plus grands pommerol pour ce qui était soi-disant le pétrus, mais qui en fait était qui était pas du tout un pétrus. Et à l'inverse, pour l'autre vin, il décrivait un mauvais vin en fait dedans. Et j'avais lu un autre papier aussi. Enfin, ça c'était l'expérience de Coralie, et j'avais lu un papier qui s'appelait The Color of Odor, je crois, où c'était des scientifiques qui avaient colorer des vins blancs en vin rouge et des vins rouges en vin blanc, et en fait la perception de la dégustation qui suivait, c'était bah, les gens décrivaient des arômes de vin blanc alors qu'en fait c'était un vin rouge, et inversement. Donc du coup il y a des facteurs externes qui modifient la dégustation, et ça vient un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le vin, c'est un objet multisensoriel, et donc du coup il y a des sens qui peuvent être pondérés ou agir les uns avec les autres.
Alors les deux expériences dont tu parles sont disponibles dans la thèse d'un jeune homme qui est plus tout jeune maintenant, qui s'appelle Frédéric Brochet, qui était à l'époque où tu décris ça, était en thèse avec Denis Dubourdieu, qui était grand œnologue et directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et qui s'était posé la question de savoir voilà, dans quelle mesure les éléments sensoriels qu'on a du vin sont modifiés dans la représentation globale qu'on a après dans la tête. Et ils avaient essayé de faire un travail très très judicieux, très scientifique. On va essayer de faire varier un paramètre et on regarde dans quelle mesure ça change l'ensemble de la représentation du vin. Prenons l'exemple de la couleur. Là, l'exercice était parlant. Tu prends un vin blanc et tu l'offres à des dégustateurs qui étaient donc des futurs œnologues, mais qui étaient dans un cadre un peu particulier parce qu'ils avaient préparé cette dégustation avec des espèces de petites flashcards dans lesquelles ils avaient listé ensemble, de manière collective, 30 descripteurs de vin blanc et 30 descripteurs de vin rouge. Donc imagine, t'as tes petites flashcards, comme dans le nez du vin de Jean Lenoir. On a des arômes de vin blanc, des arômes de vin rouge qui sont classés dans ces catégories-là, qui sont, c'est pas écrit comme ça, mais c'est perçu comme ça, qui sont un peu exclusifs. Enfin, c'est comme ça qu'on l'interprète. Et du coup, t'as un vin blanc, bah tu sors ta carte de vin blanc. Et t'as un vin rouge, tu sors ta carte de vin rouge. Et juste le fait de rajouter un petit colorant fait que tu vas biaiser tes choix de descripteurs pour plutôt des descripteurs de vin rouge. Et c'est ce qui s'est passé. Le même vin coloré en rouge a été décrit davantage sur des arômes, je sais pas, de groseille, de framboise, un peu de fraise. Là où le vin blanc sans colorant était décrit avec des arômes de poire, de pêche, peut-être un peu d'ananas, un peu de miel et un peu de beurre. Et quand on tombe le masque et qu'on sent ces objets l'un à côté de l'autre, on se rend compte qu'ils sont absolument identiques. Comment on explique qu'on peut tomber dans un tel piège? Et pour avoir fait l'expérience plein de fois avec des étudiants, c'est redoutable, ça marche trop bien, et on se demande, mais même, c'est pas possible, comment c'est possible d'avoir ça? Les gens à tel point doutent en se disant, mais ton colorant, c'est pas possible, ils sentent quelque chose. Une manière de leur montrer que c'est pas le cas, on leur bande les yeux, ou on leur fait goûter dans un verre noir, on leur dit, bah, retrouve-moi celui qui est coloré en rouge, celui qui est coloré en blanc, et ils se rendent compte qu'ils sont incapables de le faire. Mais comment on explique ça? Il y a deux raisons qui expliquent qu'on peut autant se tromper juste à la vue d'une information colorée ou à la vue d'une forme de bouteille, comme tu le disais, ou d'une notoriété de bouteille. Donc ça, c'est des informations qui viennent visuelles, qui sont exclusivement visuelles. Le système visuel est, dans notre espèce humaine, un système qui est très dominant. Regarde toutes les fonctions que tu fais avec tes yeux. Regarde tout ce que tu perdrais si tu perdais les yeux. Là, moi, si d'un coup d'un seul je devenais aveugle, je serais incapable de sortir du bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. Alors que si je perdais l'odorat, je m'en sortirais sans problème. Le système visuel est très dominant dans notre espèce. Depuis qu'on est sur deux pattes, qu'on est un bipède et qu'on regarde au loin, ce phénomène-là a changé complètement génétiquement la manière dont on construit notre cerveau. Et pour donner un ordre d'idée, si je t'amène dans un système d'imagerie cérébrale et que je te fais visionner juste une série d'images, on va rapidement voir que dans ton cortex cérébral, donc la couche qui s'est très développée dans notre cerveau, il y a 15% de ton cortex cérébral qui s'allume juste à la vision d'une image. Si je compare ça avec ce qui se passe dans ton cerveau quand je sens une odeur, si tu sens une odeur ou si tu goûtes une saveur, il y a à peine 1% de ton cortex qui est dédié à la perception des odeurs et des saveurs. Donc on est pré-câblé pour amplifier très fortement l'information visuelle et pour pouvoir lui donner un maximum de capacité de codage, d'encodage et du coup aussi de prévalence dans la représentation globale. Donc il y a une hiérarchie des sens et le système visuel est au-dessus de l'odorat. Et quand t'as un système, quand t'as un verre de vin où t'as un conflit entre la couleur et l'odeur, le cerveau va préférer se baser sur la couleur. L'autre problème aussi, c'est que quand on goûte un vin, tu l'as dit justement tout à l'heure, on t'a appris à le regarder avant de le sentir.
Ouais.
La vue précède le nez. Et dans cet exercice-là, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On met d'abord l'information visuelle dans son cerveau, d'un coup d'un seul, elle s'amplifie, et ensuite, du coup, elle devient dominante. Et du coup, après, le nez qui vient derrière se retrouve dans une situation où ce que tu sens au nez, tu vas essayer de confirmer ce que tu as vu avec tes yeux. Et le travail de dégustation, quand il se présente comme ça, devient un travail de confirmation de l'étape précédente. Tiens, le vin est rouge, donc je vais sentir au nez des odeurs que je vais essayer de rendre cohérentes avec ma vision, puisque c'est l'argument le plus fort. Et puis la bouche devient encore plus triste, puisque la bouche devient un moment où je vais essayer de confirmer ce que j'ai senti en bouche, au nez, et qui est cohérent avec la couleur. Donc la dégustation classique qu'on t'a appris, que j'ai appris aussi, œil, nez, bouche, c'est un travail finalement de dégustation où on vient confirmer l'étape précédente. Et tu vas voir que c'est pas la meilleure manière de découvrir le message du vin si le but du jeu c'est juste de confirmer ce qu'on a vu avec l'image. Donc déguster dans un verre noir, ça c'est un exercice que je propose à tout le monde de le faire, ou déguster les yeux fermés. Peut-être tu as remarqué ça, des grands dégustateurs, un grand sommelier, quand il est en une phase, de qualification dans un concours de meilleur sommelier du monde par exemple, quand il goûte le vin, un moment il va peut-être commenter sa couleur, et puis un moment quand il va commencer à s'intéresser au nez, il va fermer les yeux, ou bien il va fixer un objet autour de lui qui est complètement neutre, un mur blanc ou ses chaussures par exemple. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il essaie justement de se mettre dans une situation où le système visuel est peut-être plus informatif, et il essaie cette fois-ci de se concentrer sur son attention intérieure, de qu'est-ce qui vient de son nez et de sa bouche. Et ça, on le voit même dans le cerveau, c'est-à-dire que quand on fait un travail d'imagerie cérébrale du cerveau et qu'on compare l'activité dans ton cerveau quand tu as les yeux ouverts ou quand tu as les yeux fermés, eh ben on voit que quand tu as les yeux fermés, les centres olfactifs et gustatifs, ils augmentent d'activité. Et quand tu rouvres les yeux, ils diminuent. Parce que le système visuel a tendance à préempter le truc et à inhiber carrément les autres sens. Donc ça, c'est un truc important, c'est que l'information visuelle, elle est très piégeuse, dans le sens où elle est très dominante. Elle est un peu, moi j'aime bien utiliser le terme de prédateur, la vision est prédatrice sur la représentation, et peut faire que tu peux te planter complètement juste parce que tu as voulu valider l'information qui te paraît la plus saillante. Mais dans le vin, la couleur, c'est pas le plus important. C'est pas ça qui va te donner les caractéristiques gustatives de l'objet. Et la couleur, c'est très facilement manipulable aussi. Le niveau d'extraction, ou dans d'autres boissons en général, on peut colorer les choses. Alors, c'est pas ce qu'on fait dans le vin. Mais c'est un exercice qui demande parfois justement beaucoup d'humilité. C'est de se dire, tiens, et si je connaissais pas la couleur, si je goûtais ce vin plus librement, à l'abri de la couleur, comment je le goûterais? Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, y a des personnes qui sont tellement à l'écoute de leurs yeux que déguster dans le noir, ça devient une situation anxiogène, inconfortable. Peut-être, les personnes qui nous écoutent, peut-être toi, tu as déjà expérimenté ça. Le restaurant qui s'appelle Dans le Noir à Paris, rue Quincampoix, tu es un restaurant où tu manges complètement dans le noir, tu es servi par des aveugles qui font tout le service. Y a des personnes qui sont incapables de rester dans cette situation-là parce que trop anxiogène. Je peux pas être à la... Il me manque des informations pour comprendre ce que je vais manger, et du coup... Ce manque-là crée de la confusion, et la confusion crée de l'anxiété, et l'anxiété fait que tu sors du restaurant. Et d'autres personnes vont dire, c'était super comme expérience. Le fait d'abdiquer sur ses yeux fait que tu te concentres davantage sur les autres sens, et du coup, tu es plus attentif du point de vue auditif, du point de vue gustatif. Tu interagis avec une autre temporalité, tu prends plus le temps de mâcher, de déguster, d'analyser. Tu discutes davantage parce que tu essaies de retrouver un confort en te rassurant auprès des gens qui sont autour de toi. Et même parfois, tu te retrouves à être capable de changer la pondération des sens. C'est-à-dire qu'au niveau auditif, maintenant, tu te retrouves à être capable d'écouter une conversation de gens qui sont devant toi et d'entendre ce que disent les autres à côté et de pouvoir faire les deux en même temps. Ça te montre aussi que le cerveau, il a tendance à privilégier la vision. Et quand tu l'enlèves et que tu acceptes d'enlever ta vision, tu peux avoir quelque part une augmentation un petit peu du gain de certains sens qui sont finalement les sens que tu as besoin de mobiliser, en particulier pour la dégustation. On parlait de sens olfactif et gustatif qui augmentent dans ton cerveau quand tu fermes les yeux. C'est cela qu'il faut mobiliser quand tu dégustes un vin, quand tu dégustes un plat. Et donc, faire cet acte-là, c'est important. Au-delà de l'information visuelle, couleur, notoriété de la bouteille, pense aussi au prix.
Ouais.
Expérience très intéressante où on fait une dégustation à l'aveugle. Et ça, c'est des collègues américains qui ont fait ça il y a plus de 20 ans. Dégustation à l'aveugle, on fait goûter des vins. Et on demande aux gens de juger le niveau d'appréciation qu'ils ont des vins. Seule information qu'on donne de la bouteille, c'est son prix. Et là, ce qu'on dit pas non plus aux dégustateurs, c'est que on va réinjecter plusieurs fois le même vin dans la dégustation, mais à des prix différents. Et là, on se voit que le niveau d'appréciation du vin, quand le vin est présenté à $5 ou à $45 ou à $90, il est pas le même. Même si le vin est rigoureusement identique. Qu'est-ce qui a changé là? C'est encore une fois ta projection de la qualité, celle que tu estimes, que tu calcules, que tu prédis à partir du prix, qui est pour toi un indice de qualité numérique très très précis, eh ben se projette dans ton goût. Est-ce que le vin est vraiment meilleur? Non, mais la projection que tu t'en es faite fait que tu estimes que le niveau de qualité est plus fort. La qualité attendue est plus élevée en manière générale. Donc ça te montre voilà que le cerveau est trouvant très souvent en train d'essayer de prédire les choses. Il aime beaucoup prédire ce qui se passe. Il aime beaucoup prédire le futur. Notre cerveau est une machine prédictive qui fait plein d'inférences. C'est on découvre dans le cerveau qu'en fait le cerveau est une machine bayésienne qui va faire plein de prédictions justement tout le temps et d'inférences en fonction des probabilités de statistiques, etc. Et le cerveau adore les chiffres par exemple, et l'information numérique du prix d'une bouteille, ça c'est super. Dans le cas du vin en plus c'est assez exceptionnel parce que je crois pas qu'il y a beaucoup de produits sur la planète où le même objet peut coûter 1 € ou 1 million d'euros quoi. Et le même objet, on parle d'une bouteille de 75 centilitres, le même objet peut avoir une différence de prix d'un facteur 1 million. Je connais pas d'autres objets qui ont une telle latitude de représentation. Et donc ça te montre aussi voilà ce fait là que le cerveau se projette dans ce qu'il estime. Et il peut se projeter aussi dans l'émotion qu'il estime, dans l'émotion du prix, de la qualité, et on peut se voiler la face, c'est le cas de le dire, à cause d'une prédiction qui est mauvaise. Ça, il faut le mettre en contexte aussi, c'est-à-dire que le contexte dans lequel tu fais boire une bouteille...
Est-ce que le verre, justement, aussi peut modifier la perception?
Alors, le verre complètement, si on reste sur l'information visuelle au sens strict de la forme, de l'éclat, etc. Le verre, quand tu parles du verre, je pense que t'imagines les verres qui changent de forme,
ouais.
les collections de verres qu'on voit chez les grands verriers, changent beaucoup de choses, en particulier dans la volatilité des arômes. Et dans la manière dont les arômes vont, et les différents types d'arômes, les arômes très volatiles ou peu volatiles, vont se disperser de manière relative. Et donc, effectivement, on l'a tous un peu remarqué, il y a des verres qui profilent certains types d'arômes, d'autres moins.
La Bourgogne,
voilà, très large.
Alors, qui concentre un peu plus.
Les Bourgognes très larges, par exemple, augmentent la surface d'échange et permettent d'avoir des arômes qu'on qualifie des notes de fond plutôt. Tu vois, dans le monde de la parfumerie, on va appeler ça comme ça, des notes qui sont un peu plus lourdes, des notes d'épices, de bois, des notes d'évolution. Vont, avec cette surface d'échange qui augmente, pouvoir plus volatiliser. Alors que sur un verre Inao très classique, très effilé, très profilé, comme un verre tulipe, tu vas amplifier davantage les notes de tête, donc les notes de fruits, les notes d'agrumes, des choses comme ça. Donc le verre peut profiler les choses. Le verre ne fait pas qu'agir sur les arômes. La forme du verre peut aussi changer l'endroit où arrive le vin en bouche. Fais l'expérience chez toi, tu prends des verres qui ont des formes différentes, tu mets de l'eau très glacée dedans, et tu verses cette eau dans ta bouche et tu regardes où est-ce que l'objet froid arrive en premier. Et tu vois qu'il y a des verres qui amènent le vin à l'avant de la bouche, d'autres qui le projettent plus à l'arrière, d'autres qui projettent le vin de manière plus étalée, d'autres plus précise. Et la forme du verre va aussi interagir dans la séquence temporelle qui va être exposée dans la bouche. Est-ce que ça commence par l'arrière? Est-ce que ça commence par l'avant? Est-ce que tu proposes un point précis de goût ça, où c'est très irisant comme ça? Donc le verre peut changer plein de choses là-dessus. Nous, on s'est amusé à faire certaines expériences où on fait varier non pas la forme du verre et du buvant, mais tout ce qu'il y a autour. Donc la couleur, le poids du verre, les formes qui peuvent être imprimées dessus, qui communique avec toi via ton bras, qui le porte. Et ça aussi, ça peut changer complètement le goût que tu peux avoir du vin. Pense aussi à l'épaisseur du verre, à l'épaisseur du buvant. On connaît des marques de verre justement qui travaillent sur l'économie de verre et qui vont avoir des buvants très fins, qui font des verres très fragiles. Mais juste ce petit buvant-là, dans son épaisseur, peut modifier l'impression que tu vas faire du vin. Et si ce vin est plus élégant et plus fin... Mais c'est peut-être pas forcément le vin qui est ça, mais c'est le message tactile que tu vas avoir au niveau des lèvres, qui sont...
Quel plaisir.
Et qui sont, quelque part, construits aussi par le contenu et aussi le contenant. Donc, le verre, il peut être très, très impactant. Est-ce qu'il y a un verre universel? À chacun de le trouver aussi, de voir en fonction de ce qu'on boit. Si tu bois que des vins blancs, il y a un verre qui sera universel pour toi, qui sera pas le même que le mien, si moi, je buvais que des vins rouges, par exemple. Donc, mais c'est un exercice qu'il faut prendre en compte. Le choix du contenant peut être décisif. Ouais.
J'adore les verres avec un buvant très fin. C'est vraiment une.
Oui, c'est saisissant. Alors, une expérience qu'on.
J'ai parfois envie de les croquer même.
Ouais.
J'évite, mais.
Évite, ouais, parce que ça peut être ça peut vite corrosif cette histoire.
Ça peut vite faire mal.
Mais une expérience que les personnes qui nous écoutent peuvent faire, par exemple, c'est de voir comment La prise du verre, rien que ça peut changer la manière dont tu goûtes le vin. Si donc le verre à pied classique que vous avez à la maison, tu vas le prendre de la manière la plus confortable que tu as de le prendre, comme tu le fais d'habitude, et tu vas prendre une gorgée du vin que tu sers ce soir. Et ensuite, tu reprends le même verre, mais là, tu vas essayer de prendre au niveau du pied, essayer de prendre le verre entre le pouce et l'index, dans une situation un peu inconfortable, qui va créer une tension dans ton bras. Cette tension dans le bras va imposer du coup un message sensoriel qui va aussi rentrer dans ta représentation, même s'il n'est pas dans le vin, il est dans le contexte du vin. On a vu que le contexte du vin est important. Et curieusement, tu vas avoir l'impression que le vin n'a pas tout à fait le même goût, que le vin bu dans un verre que je tiens entre le pouce et l'index est plus acide, plus ferme, plus peut-être presque un peu plus tendu. J'utilise volontairement ce mot tendu parce que la tension du bras va ramener une idée de tension, de contraction, si tu veux. C'est ça l'idée, dans ce qui va se passer dans ta bouche et dans la représentation globale. Pourtant, c'est pas ta main qui déguste, mais la manière dont tu interagis avec l'objet, ça aussi, ça rentre en ligne de mire dans la représentation globale du vin. Donc ça te montre, voilà, que le cerveau, il écoute plein de choses. Et pas seulement ce sur quoi tu te focalises. Il y a plein d'éléments, peut-être non conscients qui rentrent dans l'exercice. Et il faut essayer de contrôler tout ça. Et c'est tout l'art de, et je trouve l'intuition du monde de la sommellerie qui doit mettre en scène le vin et le mettre en scène dans les meilleures conditions pour pouvoir le déguster à sa juste valeur. Sans te tromper, le but du jeu du sommelier, c'est pas de te faire imaginer que le vin est meilleur qu'il est. Il faut que tu puisses, après avoir dégusté ce vin, avoir envie de le racheter, de le reboire, et qu'une fois que tu le rebois à la maison, tu aies la même impression que tu as eu au restaurant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, mais attends, mais le restaurant, il m'a trompé, il m'a pas servi le vin que j'ai acheté.
Je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais j'en parlais, j'ai enregistré à la Bégude l'été dernier dans le sud. Et on discutait avec Laurent et en fait on se disait le rosé que tu bois au domaine un soir d'été en Provence avec un beau coucher de soleil, etc., a jamais le même goût que quand tu le rebois à Paris dans ton appart 6 mois plus tard, alors que c'est les mêmes bouteilles. Attention, je dis pas du tout que le rosé de la Bégude est mauvais, très loin de là, il est très bon, c'est vraiment un régal. Mais il y a une perception qui varie aussi en fonction du moment de dégustation, du coup, dans les facteurs.
Là, qu'est-ce qui change le plus entre ce moment de plaisir que tu as eu au bord de la plage pendant l'été et ce vendredi soir pluvieux en plein milieu de l'hiver? C'est le contexte émotionnel aussi dans lequel tu es. Toi, le vendredi soir, là, t'es fatigué, t'es au niveau émotionnel plutôt bas. Et l'été, t'es tout reposé, t'es en plein soleil, t'es dans un état de vraiment de plaisir et t'es plutôt à un niveau émotionnel plutôt haut. Le rosé que tu vas boire, et pas forcément celui de la Bégude, hein, même un rosé encore plus simple, va te donner un petit peu de plaisir. Et donc, tu vas atteindre un niveau de plaisir un petit peu plus fort. Mais la fausse idée qu'on a en tête, c'est que de se dire que le niveau de plaisir que j'ai atteint quand j'étais l'été au bord de la plage, je vais retrouver le même niveau de plaisir, alors que mon niveau émotionnel, lui, a chuté d'un niveau très bas. Et non, le vin va offrir le même incrément de plaisir, c'est-à-dire un tout petit peu, mais il va pas te permettre de rejoindre le niveau dans lequel tu étais avant. Et pareil, ça, c'est une fausse idée que le cerveau te donne. Et c'est là qu'il faut comprendre aussi que le vin, son goût, il faut aussi mettre le dégustateur dans l'équation du goût du vin. Ça, on l'oublie trop souvent. Même chez un professionnel, quand tu dégustes, et si tu veux déguster de la manière la plus objective du monde, telle une machine, il faut que tu puisses être capable de normaliser ou de noter un peu l'état émotionnel dans lequel tu es. Si tu goûtes à un moment où tu es un peu frustré, irascible, tendu, énervé, pas concentré, fatigué, enfin, on peut voir plein de niveaux émotionnels qui changent, ça peut tout simplement modifier ton verdict. Et on l'a dit tout à l'heure, exemple encore plus concret qu'on vit tous les jours au moins une fois, ton état d'appétit, ton état de satiété, quand t'as très faim, ton niveau de sensibilité est différent, tes seuils olfactifs sont plus faibles, donc tu sens mieux une odeur, t'es capable de sentir l'odeur d'un poulet rôti qui est en train de griller à 300 mètres d'ici, parce que c'est un jour de marché aujourd'hui. Et puis après manger, cette odeur-là, t'es plus capable de la sentir. Et puis aussi, ton niveau de préférence change aussi. Il y a des choses que t'es capable d'apprécier avant manger, et puis après manger, c'est des odeurs que t'aimes un peu moins. Ben voilà, on change en 2 heures de temps, on a complètement changé l'état dans lequel on est. Et donc, quand on fait une dégustation technique, c'est important, voilà, souvent de se positionner au même moment de la journée. Typiquement, entre 10h et midi, c'est là où on est, c'est souvent le top. Parce qu'on est au top de notre sensibilité, de sensorialité olfactive, gustative. C'est là aussi où on est au top du point de vue de l'attention. Et le processus attentionnel, c'est un processus qui demande pas mal de ressources cognitives et d'énergie. Et c'est un moment où on n'a pas non plus une fatigue énorme. Il n'y a pas le stress gastronomique un peu de toutes les hormones, tous les effets postprandial, etc. Donc 10h midi, c'est top. Mais note dans un coin de ta feuille de ta dégustation quand est-ce que tu dégustes. Parce que le vin que tu as dégusté entre 10h et midi, eh ben, il n'y aura pas le même goût que le même vin que tu vas goûter entre 14h et 15h.
Alors on a parlé de beaucoup de choses, il est déjà 14h30, alors le temps file, j'ai l'impression qu'on a à peine effleuré le sujet encore, mais c'est ce qui fait que c'est passionnant. Peut-être une dernière question avant de passer à la conclusion, c'est comment est-ce qu'on progresse en dégustation? On en a un tout petit peu parlé au début, mais c'est de ce que j'ai compris, c'est forcément en dégustant plus, en dégustant de manière le plus conscient possible, justement en essayant de contrôler ces facteurs externes ou en notant l'heure, en notant les verres qu'on utilise, ces choses-là. Et ce que tu disais aussi, c'était d'essayer de mettre des mots associés à ce qu'on déguste pour ensuite savoir faire le tri dans le cerveau. Mais est-ce que tu vois d'autres choses ou comment est-ce que tu nous conseillerais de fonctionner pour nous améliorer en dégustation dans le sens... parce que je pense que s'améliorer en dégustation, ça a plein de sens différents, mais peut-être dans le sens... profiter encore plus de ce qu'on déguste et réussir à le catégoriser davantage pour en ressentir davantage de nuances.
Ouais, tu lèves un point important déjà dans le préliminaire de cette question, comment je m'améliore. Il faut essayer de comprendre aussi pourquoi je déguste. Ce vin que je déguste, dans quelle intention se cache derrière cet acte de dégustation? Est-ce que c'est pour imaginer un accord mets et vins ce soir parce que j'ai des amis? Est-ce que c'est pour une décision œnologique? Est-ce que j'arrête tel ou tel processus? Est-ce que c'est pour faire de la recommandation auprès de mes lecteurs? Est-ce que c'est tu vois, l'objet déjà, réfléchis déjà pourquoi tu vas déguster et dans quel objectif. Dans cette question-là, je rajoute aussi un autre paramètre, c'est est-ce que je déguste pour moi ou est-ce que je déguste pour les autres? L'acte de déguster et de verbaliser mes perceptions, mes sensations, elle s'adresse à moi pour mon cahier de notes personnel ou est-ce qu'elle s'adresse aux autres? Et quand tu fais un commentaire pour toi ou pour les autres, c'est pas la même chose. Parce que quand tu commences à rentrer dans l'axe social, et le vin est un produit social par définition, un produit de partage, ben quand je parle à l'autre, je me mets en connexion avec ses références. Et il faut que je me mette à son niveau. Et peut-être qu'il a pas les mêmes références que moi, peut-être qu'il n'a pas le même langage, peut-être qu'il a pas les mêmes mots, donc il faut que je me projette dans son cerveau. Et c'est pas la même chose que se projeter dans son propre cerveau à soi. Alors comment améliorer sa dégustation? Donc première, voilà, poser la question de pourquoi je déguste, dans quel contexte, à quoi ça sert, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon projet, pourquoi je déguste. Deuxième aspect, c'est qu'il y a plusieurs écoles de dégustation, on peut en citer quelques-unes, une école, disons, très analytique, fer de lance, la dégustation anglo-saxonne type W7. C'est une dégustation qui a été assez simplifiée, pas mal élaguée pour aller droit sur des dimensions sensorielles précises. Et qui se veut objective. Alors, objectivité en dégustation et en perception, on l'a bien vu, ça n'existe pas, puisqu'on reconstruit toujours les choses. Mais on a essayé de voir dans quelle mesure on peut rendre ça le plus objectif possible. Et dans cette dégustation analytique, on va séparer l'œil du nez de la bouche. Et on va, par exemple, en bouche, beaucoup essayer de qualifier différentes catégories de sensations. Focus sur l'alcool. Focus sur les tanins, focus sur le corps, focus sur l'acidité, dans lequel on va te proposer d'aller pas trop loin non plus, c'est de qualifier le niveau d'acidité par exemple. Est-ce qu'il y a un peu, beaucoup, passionnément de l'acidité? Est-ce qu'il y a un peu, beaucoup, passionnément de l'alcool? Donc ça, c'est une première technique qui est assez simple, et je pense que c'est une première méthode qu'il faut essayer de maîtriser, c'est ces premiers items dont on parlait, qualifier l'œil, qualifier le nez, qualifier la bouche et les différentes dimensions de la bouche. Est-ce que je peux essayer de quantifier un peu les choses? Une fois que je commence à maîtriser ça, et vous allez voir, c'est très rapide. Rapidement, on peut maîtriser ces grilles d'analyse. On se rend compte que il y a vite un vide parce que il y a des vins qui se ressemblent, qui sur cette grille-là vont cocher les mêmes cases, et pourtant ils sont différents. Donc après avoir qualifié, je sais pas, l'acidité, il faut quantifier l'acidité, pardon. Il faut justement essayer de la qualifier. Essayer de mettre des mots, et c'est là que c'est le difficile, parce qu'il faut développer un vocabulaire. Il faut développer un vocabulaire qui va être pour toi, mais qui va être aussi pour les autres. Et c'est la chose dans laquelle on y venait tout à l'heure, c'est que il faut que toi aussi, tu t'enrichisses du vin que tu goûtes en enrichissant de mots qui vont créer des catégories dans ta tête, qui vont créer des cases. S'il n'y a pas un mot pour définir une saveur, s'il manque un mot pour définir une sensation, ta mémoire de cet objet-là va disparaître. Je prends un exemple que moi, sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui m'obsède un petit peu parce que je trouve ça tellement frustrant. En Europe occidentale, on considère qu'il y a en bouche 4 saveurs. Sucré, salé, acide, amer. Quand on va en Asie, il y a une 5e saveur qui s'appelle l'umami. Et en Europe, on considère que l'umami, bah, c'est pas une 4e saveur. Même si depuis les années 90, on sait très bien qu'il y a un capteur qui est destiné pour ça. On connaît les molécules qui activent ce récepteur de l'umami. Mais voilà, le mot umami est un mot qui ne résonne pas en net. Quand on le traduit, ça veut dire savoureux, délicieux. C'est très vague, donc c'est pas une catégorie, donc on dit que ça sert à rien. Et quand on fait goûter un objet umami à un Européen, classiquement, il dit, bah, oh, c'est un objet qui est salé, un peu rond, un peu doux. Pour lui, c'est un mélange de sucré et de salé. Et puis là, quand on va en Asie, quand on va au Japon, même dans une famille avec des enfants japonais, moi, j'ai vécu ça une fois dans ma vie, ça m'a marqué, bah, les enfants japonais, ils n'ont aucun problème pour dire, maman, la soupe, elle est bien umami, un peu trop umami ou pas assez umami. Pour eux, c'est une catégorie à part entière. Comme nous, on viendrait dire, la soupe, maman, elle était un peu trop amère ou trop salée, par exemple. Ouais. Pour eux, s'il n'y a pas de problème. Donc, si nous, on n'est pas capable de faire ce qu'un enfant de 5 ans fait au Japon, c'est qu'il y a un problème. On revient à l'éducation. On n'a pas appris à mettre un mot sur cette saveur. On n'a pas appris à la définir. Et du coup, en 100 mots, cette saveur disparaît de notre champ. Donc, c'est important. Ça veut dire que le langage structure notre pensée et la limite à la fois. Et s'il me manque un mot, la chose disparaît. Donc, apprendre à mettre des mots, ça c'est important. Donc, dans l'exercice d'apprentissage et de performance de la dégustation, essayez d'écrire tes commentaires. Essayez d'apprendre à écrire tes commentaires. Essayez de faire un exercice de style parfois. Attends, je l'écris pour moi. Je l'écris en mode W7. Je l'écris en mode je décris un vin pour mes copains. Et en mode je prépare un article pour un. Imaginons que je suis un journaliste pour la revue du vin de France. J'écris un article qui va commenter un vin. Comment je vais écrire ce vin-là? Exercice de style intéressant, où ce passage à l'acte de l'écriture, de verbaliser, pas juste de dire c'est bon, mais d'expliquer pourquoi c'est bon. Ça, c'est un exercice qui te force justement à créer des catégories, à définir tes sens et à le définir dans un objectif particulier. Après, pour continuer l'exercice, on l'a vu tout à l'heure, les mots peuvent être très précis, parfois trop précis aussi. Si un mot est trop précis, personne ne va le comprendre. Moi, une des mes dégustations qui m'a le plus déplu dans ma vie, c'est... Enfin, peut-être pas déplu, mais j'avais trop imaginé de choses et puis ça, c'est pas ce qui est arrivé. C'est une dégustation qu'un parfumeur, par exemple. Déguster avec un parfumeur, on se dit, ouais, il va me décrire le vin dans une dimension que j'aurais pas vue, ça va être fantastique. Et le parfumeur a fait ce qu'il sait très bien faire, c'est analyser les molécules, il m'a décrit le vin en termes de non-molécules. Ce qui, à la fin, n'avait aucun intérêt.
Pas très émotionnel, ouais.
Et on se dit, mais il manque quelque chose, quoi.
Ouais.
Et donc, tu touches du doigt à un point important. L'émotion, elle est là. On a tous un petit bébé coincé dans notre tête quelque part qui dit c'est bon ou c'est pas bon. Je bois ou je bois pas. J'achète pas. Et cette dimension émotionnelle, parfois la culture anglo-saxonne a tendance à le cacher. Nous, en France, plutôt latin, on a tendance aussi à parler du vin, à dire si on aime, si on n'aime pas. Regarde, à table, on aime bien parler des plats et le dire si j'aime, c'est bon, c'est pas bon, c'est super bon ce que t'as fait, là, il manque quelque chose. Et essayer de commenter un peu les choses. Ce côté émotionnel, il faut pas le mettre sous la table. Au contraire, il faut le garder parce que c'est un point d'entrée pour essayer de décrire le vin. Pourquoi j'aime pas tel truc? Est-ce que c'est parce que j'aime pas un arôme qui me rappelle l'arôme de fromage parce que j'aime pas le fromage, par exemple? Ou est-ce que c'est y a un déséquilibre sur l'amertume? Essayez de donner des informations par l'émotion. Par l'émotion, et l'émotion, elle peut aussi faire rejaillir des choses en toi, c'est-à-dire que ton corps va s'exprimer dans l'émotion. Quand tu goûtes un vin, ton corps réagit face au vin. Il va te mettre en tension. Ou au contraire, il va te mettre dans un confort. Il va attirer ton attention. Ou au contraire, il va vite t'ennuyer. Et ça, c'est la manière dont le corps réagit face à l'état émotionnel dans lequel tu es. Ça se manifeste en particulier dans une chose qu'il faudrait qu'on écoute davantage, c'est la salivation. Comment tu salives face au vin? On produit différents types de salive et la réaction de salivation, c'est une réaction face au vin qui manifeste comment tes glandes salivaires et ta perception rapide et immédiate du vin se rejaillit sous forme de est-ce que je salive pour me protéger du vin par exemple, ou au contraire je salive pour accompagner le vin et le l'accueillir de manière bienveillante. Tout ça est aussi une manifestation de ta réaction. Et puis on l'a un peu parlé tout à l'heure aussi, dans les mots qu'on décrit, si c'est trop précis, c'est peut-être bien pour moi. Si je commence à décrire le vin en disant ah, ça sent exactement la confiture au coin que fait ma grand-mère, ça me parle, mais toi tu l'as pas goûté avec moi ma confiture. Donc il faut essayer de trouver des vocables qui sont de plus en plus globales, qui ont une communication, une communicabilité, je sais pas si le mot existe, efficace. Et ne pas hésiter à chercher aussi des métaphores globales. On parlait de minorité tout à l'heure. Bah, minorité, on a vu que c'était un mot qui était intéressant et en même temps piégeux, mais si je dis qu'un vin est minéral, tout le monde va comprendre. Et si après je qualifie cette minéralité, je rentre dans la précision et j'arrive peut-être à mieux définir ce que je ressens. Et puis un dernier point, moi, pour essayer de voir un peu la force du cerveau, il faut s'appuyer sur la capacité du cerveau à trouver des grandes analogies dans plein de sens. Le cerveau aime les métaphores, on aime beaucoup les métaphores pour décrire le monde qui nous entoure. La poésie est une machine à métaphores, le vin se nourrit de poésie pour quand on a besoin de le décrire. Et sans rentrer dans des concepts de poésie très compliqués, la métaphore des accords mets-vins, par exemple, est pour moi très efficace pour parler d'un vin. Si je te dis que j'ai ramené deux vins pour déguster ce midi, il y a un vin qui sera parfait sur un sashimi de dorade avec un filet de citron, et un autre vin qui va accompagner parfaitement la côte de bœuf que tu as préparée à barbecue. J'ai pas décrit les vins, pourtant tu sais pas mal. Voilà, tu sais que c'est un blanc, que c'est un rouge, tu sais que c'est un blanc plutôt ciselé, etc., et sans sucre. Tu sais que le rouge, ça va être un rouge assez pulpeux, assez riche, avec un peu de tanin pour accompagner le gras, qui est plutôt sur peut-être des arômes qui vont accompagner cette viande grillée. On n'est pas sur une viande en sauce. J'ai pas parlé du vin. J'ai juste dit sashimi de dorade, côte de bœuf au barbecue, économie de mots, mais efficacité dans la transmission. Donc chercher ces analogies-là, c'est important parce que ça te permet de te projeter dans des dimensions du vin qui sont parfois décomposées trop par la dimension analytique. Quand on décompose le vin œil, nez, bouche, on le déconstruit. Mais c'est un peu comme si tu me décrivais un tableau en me disant les couleurs qu'il y a dedans.
Ouais, y a des...
Ah ben ce tableau-là, je vois du rouge, du vert, un peu de bleu et puis il y a aussi un peu de marron. Ben, si tu me dis ça, je comprends rien du vin. À l'inverse, si tu commences à me décrire la scène générale du tableau en me disant ouais, là, je vois une chevauchée avec un monsieur sur un cheval qui saute une montagne et qui fait signe à ses camarades de le rejoindre, bah, je sais pas quelle couleur t'as vu, mais par contre, je vois un message du vin qui est clairement la scène générale. Mmh. Et donc, tu vois comment les différents niveaux se complètent dans cet exercice-là. Il faut parler des choses et introduire aussi quelque chose que les gens oublient souvent, c'est qu'on pense qu'une description d'un vin, c'est un objet qui est figé, mais non, un vin, c'est un objet qui est dynamique, qui évolue dans le temps, qui évolue en bouche. Et d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que j'attire le regard des stars conformes. C'est un grand vin, une de ses caractéristiques, justement, c'est un vin qui propose pas un message, mais qui propose plusieurs messages qui se séquencent. Un grand vin, c'est un film. C'est pas juste une image. Et ça, c'est prendre son temps et écouter le vin, et écouter comment tu réagis face au vin, et écouter comment les choses se séquencent un petit peu. Je pense que c'est là qu'on commence à vraiment rentrer dans le message. Et peut-être à la fin de comprendre aussi comment je peux structurer un accord mets-vins, par exemple. Parce que le temps, c'est ça qui va construire la juxtaposition du vin, puis du plat, puis du vin, qui se juxtaposent dans le temps. Tu mets pas ta gorgée de vin et ta bouchée de côte de bœuf en même temps, c'est pas ce que tu fais. Tu les fais l'un après l'autre. Et ben donc, il faut écouter le temps qui se déroule dans un verre de vin. Et ça, c'est de rentrer finalement dans le côté vivant du vin, et c'est ça qui nous passionne.
On a des devoirs avec ce que tu viens de nous dire sur comment progresser, comment améliorer sa dégustation. Donc, je vais essayer de m'y mettre. J'en ai une ce soir d'ailleurs, donc ça tombe bien. Gabriel, merci beaucoup pour ton temps cet après-midi. C'était vraiment un plaisir de partager ces échanges. J'ai appris plein de choses et je pense que ce sera le cas aussi des personnes qui nous écoutent. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce podcast, parce que je voulais pas interviewer que des personnes qui font le vin, même si c'est crucial et qu'elles font une bonne partie de ce podcast, mais j'avais à cœur d'interviewer des entrepreneurs, des scientifiques, des sommeliers, des critiques, etc., pour vraiment décrire ce paysage du vin. Et je suis très content qu'on ait eu cet échange ensemble. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est: est-ce que tu as un livre à me recommander?
Alors un livre en français, je suppose. En français, moi, mon dernier coup de cœur, c'est un livre qu'on a peut-être déjà cité ici à cette antenne. C'est le livre de Pascaline Lepelletier, Mille Vignes, dans lequel elle a pu, je trouve, déployer une vision du vin qui change des livres, des manuels de dégustation, qui change des manuels de classification des vins par région, etc. Je trouve qu'elle a vraiment trouvé la pierre angulaire qui manquait un peu dans le répertoire français, en tout cas. Et je dis ça parce qu'en plus on a relu des parties ensemble, etc. Elle m'a demandé de relire des choses quand elle me citait. Donc ce travail-là, elle l'a fait en collaboration avec plein de gens. Elle a réussi à mettre plein de gens autour d'elle. Et ça, c'est vraiment la force de Pascaline. Et derrière ça aussi, son talent d'écriture, sa qualité de femme lettrée, qui se voit vraiment en livre. Et ça, c'est vraiment un livre que je recommande mille fois, mille vignes, mille fois.
Bah, c'est noté. Le lien sera évidemment en description, mais je ne peux qu'être d'accord. On en profite pour embrasser Pascaline qui nous écoute de temps en temps et qui est passée dans ce podcast. Donc, ça vous souligne à quel point vous écoutez un podcast de qualité. Mais si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, allez l'écouter parce qu'on s'était régalé avec Pascaline à parler justement aussi pas mal de littérature et tout ça. Donc c'était vraiment un plaisir. Est-ce que t'as une dégustation coup de cœur récente?
Plein de dégustations coup de cœur dans la tête. Est-ce qu'il y a un vin qui a éveillé ma curiosité récemment? Bah, je trouve que les vins dont on se souvient le plus, enfin en tout cas c'est ce qui m'arrive de plus en plus, c'est les vins qui sont justement qui évoquent de la surprise, des vins qui vont au-delà de ce que tu arrives à prédire. Tu penses t'as un vin qui est devant toi, t'essaies de le découvrir à l'aveugle, et en fait non, c'est pas du tout ça, puis c'est complètement autre chose. Tu t'es enfermé dans une idée et le vin t'en proposait une autre, et je trouve que ce travail de dégustation à l'aveugle, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Se mettre en danger en dégustation, c'est essayer de déguster contre son cerveau quelquefois, avec lui mais contre lui en même temps, et se mettre dans ce danger là c'est toujours intéressant. Donc moi j'aime bien pratiquer ça. Écoute, la dernière dégustation que j'ai faite à l'aveugle ce week-end, je te parle d'un des vins qui nous a pas mal bluffé. On goûtait un champagne de chez Anselm Selos, complètement à l'aveugle. Alors même s'il a une signature quand même assez particulière dans son travail du vin et du champagne, c'était un vin qu'on n'arrivait pas à placer dans les cases qu'on avait l'habitude de goûter. Et ça, c'était surprenant. Et donc du coup, je trouvais que l'exercice était intéressant parce qu'il était inclassable. Et du coup, on avait encore plus envie de l'écouter. Et ça, c'est fort. C'est que le vin arrive à se jouer de ton cerveau. Et ça, c'était beau.
Et enfin, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer?
Alors, je connais pas toutes les personnes qui sont venues ici, mais elles sont, j'ai l'impression, déjà nombreuses et toutes plus nourrissantes que d'autres. Je sais pas, quelques idées en tête. Hier soir, j'étais assis à côté de quelqu'un qui représente une partie de ce qui fait le monde du vin. Ce sont les gens qui travaillent dans les tonneleries.
Ouais.
Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur les tonneaux avec toi, qui a expliqué le monde du fût, du travail sur bois. Peut-être qu'en plus c'est pas forcément le style de vin que tu aimes, donc je peux comprendre que c'est pas forcément le truc qui t'a intéressé tout de suite, mais je trouve que le monde du bois nous montre une matière qui rentre dans le travail de l'élevage. Faut pas prendre le bois seulement pour un objet qui vient aromatiser et donner des tanins, des composés amers, du sucre, etc. au vin. C'est aussi un objet qui va faire élever le vin, le faire grandir, au sens littéral du terme. Donc moi, je dégustais hier avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Giraud, qui est retraité maintenant, donc qui sera disposé à parler avec toi, et qui a travaillé toute sa vie à la tonnerie Chêne et Compagnie, la tonnerie Taranceau. Et qui, en plus de ses fonctions de directeur commercial, avait une fonction vraiment de dégustateur. C'est presque le service après-vente, entre guillemets. C'est lui qui va accompagner les vignerons pour pouvoir goûter les vins en fonction des bois, les aider à choisir les bois, les chauffer, de personnaliser ce travail, de faire les suivis. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas en dégustation, m'a beaucoup appris aussi. Et je trouve que ce serait une personne qui serait intéressant à intéresser pour voir cet aspect juste de l'élevage et du travail du bois. Est-ce que la dégustation est différente quand on se focalise là-dessus? Et pour moi, c'est ça que j'aime bien, c'est essayer de déguster le vin aussi avec des personnes qui sont pas forcément des vignerons qui voient l'objet global de A à Z, mais d'autres personnes qui gravitent autour du vin. Je te propose celle-là, je pourrais te proposer d'autres personnes aussi. Tu vois, j'aime bien déguster aussi avec un ancien sommelier qui maintenant travaille sur le café, et ça rejoint peut-être ta passion pour le café, quelqu'un qui s'appelle Hippolyte Courty, l'arbre à café.
Ah mais qui a l'arbre à café, ouais. Voilà. C'est juste à côté de chez moi, il faut absolument que j'aille.
Il faut que tu ailles là-bas, tu lui donnes rendez-vous à Hippolyte. Hippolyte est sommelier de formation, il a été acheteur de vin pendant longtemps, il s'est converti au café, mais sa lecture du café est très... pas œnologique, mais clairement nourri par la lecture du vin, par la lecture de l'acidité du vin, par la lecture des accords mets et vins. Et ça a transformé la manière dont il construit et torréfie son café. Et surtout, en ce moment, la manière dont il produit ses cafés, parce que maintenant, Hippolyte est aussi à la tête d'une finca au Pérou, dans lequel il a importé, depuis la France, des contenants pour faire des fermentations. est inspiré des fermentations du vin. On fait fermenter son café de différentes manières. Tu le sais certainement, il y a des travails de fermentation anaérobie, etc., des macérations carboniques, des mots qu'on connaît, nous, dans le monde du vin, mais qui sont un peu exotiques dans le monde du café. Et ben, on va importer ces techniques-là, les personnaliser au café et chercher finalement à reproduire dans le café des choses qu'on maîtrise bien dans le vin. Et ça, c'est très intéressant de voir que finalement, le vin peut aussi nourrir d'autres domaines et que la dégustation du café, tu le verras, peut nous aider aussi à mieux déguster le vin.
Ouais, il faut absolument que je fasse un épisode hors série sur le café, donc compte sur moi. Gabriel, merci beaucoup pour ton temps cet après-midi, c'était vraiment top. Encore une fois, j'ai appris plein de choses, donc merci de t'être rendu disponible. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous, envoyez-le à au moins 2 personnes. Appliquez ce qu'a dit Gabriel pour vous améliorer en dégustation. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de très belles dégustations et je vous dis à très bientôt. Gabriel, encore merci et à bientôt.
Merci à tous, bonne dégustation.